Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano au micro de votre émission littéraire et musicale. Moi je lis et avec vous je partage chaque semaine et pendant 30 minutes sur vos ondes engagées et non commerciales. Alléluia, ça existe encore. Je vous restitue une lecture qui m'aura carrément emballé pour y arriver. Je chronique l'ouvrage, j'interviewe les auteurs quand c'est possible et puis, et tout est là dans Rock and Page, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué, histoire de vous restituer des émotions, des univers, des graphismes, des écritures, des récits, des personnages. Et j'en passe, le tout en musique. Histoire aussi de sortir des entre-soi nauséabonds et stériles. Au sommaire de ce numéro, une bande dessinée, ou plutôt deux. Le titre de ces deux albums, c'est Momo. Les auteurs de ces petits bijoux sont Jonathan Garnier et Ronnie Autin. Et elles sont parues, le tome 1 et 2, chez Casterman. Ajoutez à cela que la BD vient de recevoir la pépite d'or du Festival du Livre Jeunesse de Montreuil, The référence en littérature jeunesse. Et voilà en tout cas pour la partie présentation. Enfin, ajoutez au dernier ajout que je recevrai d'ici une poignée de minutes, Jonathan Garnier en interview, et vous aurez un aperçu de mon bonheur qui est grand, si grand. Avant de vous en dire un peu plus, laissez-moi vous balancer ça entre les oreilles, histoire de vous raconter à ma façon, à moi, l'univers entier de ces deux volumes magnifiques de bande dessinée. C'était Nils Fram. Aujourd'hui et d'entrée de jeu dans Rock and Page pour vous dire comment je me sentais en refermant Momo, cette BD jeunesse parue en 2 tomes chez Casterman et signée côté scénario par Jonathan Garnier et côté illustration par Ronnie Autin. Nils Fram que j'ai choisi pour vous donner une teinte, celle qui reste de cette bande dessinée qui cause à tous et à toutes de l'enfance. Momo est une petite fille de 5 ans dont on ignore le prénom réel et qui est élevée par sa grand-mère dans un tout petit village en France, un petit village qui pourrait tout à fait se situer en Bretagne ou en Normandie, dans les années 80. Pour l'époque, c'est en collectionnant de tout petits détails sur les 2 tomes que l'on pourra la définir. Je pense à François Mitterrand qui apparaît dans le poste de télévision, je pense au prénom des personnages, je pense à l'engouement Pokémon, mais qui somme toute est loin d'être passé parole de parents d'un petit gars de 7 ans. Le papa de Momo est marin et la maman de Momo est aux abonnés carrément absent. La mamie de Momo, elle, est une vraie mamie de campagne, de compétition, une adorable vieille dame portant un chignon, des lunettes, une canne et une jupe droite et travaillant d'arrache-pied dans son jardin protégé. La situation de famille de Momo donne du grain à moudre à toutes les commères du petit village. Momo n'est donc pas comme les autres. On va suivre Momo dans ce tome 1, et ainsi que dans le tome 2, de sa tristesse quand elle s'approche de la mer et ne voit pas revenir son père, le temps lui semble interminable, jusqu'au poissonnier adorable dont le jeu préféré est de terroriser la petite fille, en passant par François, cette adolescente qui fume et qui va fasciner la petite fille, jusqu'au gamin à grande bouche qui parade main dans les poches, ou quand ils sont un peu plus vieux, très fiers sur leur mobilette. Je pense aussi à ce personnage assez incroyable qui est une sorte de marginal qui vivrait un peu, enfin qui vit sans domicile fixe et qui lui aussi apportera sa touche d'humanité pour aider à faire grandir Momo. Une chose est sûre, dès les toutes premières planches, nous voilà attachés viscéralement à cette petite fille qui ne fait rien comme tout le monde, qui ressemble à un petit animal sauvage et qui répond aux frasques du poissonnier à grands coups de crayon sur des feuilles qu'elle a toujours sur elle dans un petit sac qui semble magique. Et moi, cette petite Momo-là, malgré les gros chagrins qu'elle se doit de porter, je vous la dirai bien comme ça.
Gotta get a ooh-wee, makes my body dance for you. Ooh-wee.
C'était le fameux Makeba de Jane, aujourd'hui dans Rock and Page, pour vous dire tout en musique toute la dimension solaire de cette petite fille, cette petite Momo, l'héroïne de la bande dessinée éponyme, parue en 2 tomes chez Casterman et signée par Jonathan Garnier et Ronnie Autain. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle, il est grand temps pour moi de recevoir Jonathan Garnier, le scénariste de cette petite merveille. Jonathan Garnier, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Et puis merci et bravo, car vous venez de remporter la pépite d'or du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil avec votre bande dessinée, cette Momo, dont on parle aujourd'hui dans l'émission. Alors, avant d'entrer dans l'univers magnifique de Momo, racontez-nous un petit peu votre parcours.
Alors, j'ai un parcours... j'ai plutôt un bagage de graphiste, en fait, de dessinateur.
Ouais.
Je dessinais depuis tout petit, en fait. Mm-hmm. Je lisais énormément de BD aussi. Et j'ai toujours eu en tête de faire de la bande dessinée, mais jamais en tant que scénariste, en fait. Je me disais que c'était pas pour moi, en fait. Et quand j'ai commencé à écrire un petit peu, mais au lycée, c'était assez navrant. Donc j'ai arrêté assez vite. Et ensuite, du coup, j'ai plutôt fait des formations graphisme, communication visuelle et bande dessinée.
Ouais.
Mes premiers emplois, c'était en tant que print designer, toujours dans l'image. Et ensuite, j'ai rejoint Ankama Edition.
Ouais.
Alors à l'époque, j'avais le choix entre un job de manager à Dublin ou de travailler à Ankama à Roubaix. J'ai choisi Roubaix, mais j'ai bien fait parce que du coup, voilà, Ankama était vraiment...
C'est là que les portes se sont ouvertes pour vous.
Ouais, ben voilà, je savais que c'était le bon moment pour y aller, parce que du coup, Ankama grossissait de plus en plus en proposant vraiment des projets vraiment atypiques et intéressants. Et là-bas, j'ai pu travailler avec Ron, l'auteur de Mutafukaz, qui chapeautait pas mal l'édition Ankama, et voilà, qui m'a proposé de passer éditeur, parce qu'il voyait que j'avais l'envie de monter des projets, de travailler avec des auteurs. Et voilà, en fait, ce travail avec des auteurs, en fait, que je contactais, pas mal de jeunes auteurs, justement, que j'essayais d'accompagner dans leur travail d'auteur, toutes les discussions que j'ai eues avec eux, en fait, qui étaient super enrichissantes, qui m'ont donné qui m'ont nourri, en fait, qui m'ont un peu donné les armes pour écrire, je pense, et puis je pense un peu de maturité dont j'avais besoin, qui ont fait que j'ai commencé à écrire, en fait, assez tard. Dans mes 30 ans, et avec Momo, du coup, qui est mon premier scénario.
Alors dites-nous un petit peu comment elle est née, cette bande dessinée. Est-ce qu'elle est née de la rencontre avec Rini Autain, l'illustrateur, ou est-ce qu'elle est plutôt de la rencontre avec Mirai Chan, cette petite fille photographiée par Kotori Kawashima?
Plutôt Mirai, en fait. Rony, je le connaissais en tant que, quand j'étais éditeur, en fait. Ça faisait partie des jeunes talents que j'avais essayé de dénicher, de contacter. Momo, je l'ai vraiment écrit de mon côté, en fait. Quand j'ai contacté Rony, j'avais déjà les 2 tomes décrits complètement, en fait, dialogués. Et c'est vrai que c'est beaucoup cette fameuse Mirai Chan qui a été le déclic, en fait.
Okay.
Je commençais à avoir envie d'écrire. L'enfance m'intéressait, parce que c'est vrai que c'est une époque de notre vie où les choses se construisent beaucoup. Vraiment, on fait beaucoup de premières expériences. Et voilà, c'est une période que je trouve intéressante, en tout cas, à aborder. Et voilà, quand j'ai vu les photos de Mirai Chan, donc une petite japonaise qui a vraiment une super bouille, on sent tout de suite qu'elle a un sacré caractère, et c'est vrai que je me suis dit que c'était un personnage, en fait. J'avais envie de raconter un petit peu ce qu'il y avait entre chaque photo, en fait. Donc, c'est un mix de tout ça, avec Mirai Chan et d'autres influences photographiques et un peu filmiques ont été...
Bien sûr, on va y revenir. Alors, une des grandes forces de votre ouvrage, c'est de fonctionner comme une madeleine. Pour nous, adultes, quand on la lit, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment des détails qui ont fait nos enfances, et je pense aux détails sur les dessins animés, je pense, là c'est côté graphisme, je pense aux détails de la mode vestimentaire, un François Mitterrand qui apparaît dans le petit écran. Est-ce que c'est votre volonté au départ, ça, de parler de l'enfance en utilisant les nôtres, la vôtre ?
Alors, au début, non, en fait. Comme je disais, j'avais pas mal de références japonaises. Pas forcément de littérature, enfin manga ou autre, mais beaucoup de photos, en fait. C'est vrai que dans mon bagage, je me suis mis à la photo aussi. J'ai un peu délaissé le dessin pour la photo. Et ce qui fait que ça m'a... Voilà, j'ai commencé à m'intéresser à des photographes aussi. Et j'avais beaucoup de photographes japonais, de réalisateurs aussi japonais. C'est vrai que ce que j'aime bien chez les japonais, c'est leur façon qu'ils ont, quand ils parlent du quotidien, d'y mettre toujours de l'humour, en fait. Toujours un certain décalage.
Ouais.
C'est jamais vraiment en premier degré, larmoyant ou autre. Il y a toujours, c'est toujours très vivant, en fait.
Tout à fait.
Et du coup, je pensais mettre l'histoire au Japon. Et voilà, à un moment, je me suis posé la question si c'était vraiment pertinent. Enfin, j'aimais bien ce parti pris parce que, voilà, le Japon, c'est vraiment un pays de contraste sur pas mal de points, mais est-ce qu'il valait pas mieux que je mette ça à une époque dans un contexte que je maîtrisais plus. Donc ça que voilà, c'est pas fait tout de suite, mais voilà, à un moment j'ai décidé de mettre ça donc en Normandie dans les années 80-90. Mais du coup ça m'a beaucoup aidé à, en effet, mettre pas mal de choses personnelles en fait.
Alors ça peut... dites-moi, pardon.
Oui, non. Du coup, des petits détails justement un peu plus, des petites références qui parlent effectivement aux adultes. J'essaie de pas trop en mettre. L'idée avec Ronnie, on voulait pas non plus soit juste un catalogue un peu de références nostalgiques pour les adultes, mais pour pas perdre les enfants non plus.
Oui.
Mais voilà, que les adultes puissent s'y retrouver, puissent se projeter aussi dans leurs vacances chez leurs grands-parents ou tout simplement leur jeunesse. Donc c'est pour ça, pareil, ça se passe en Normandie, mais j'ai pas trop appuyé la chose parce que voilà, je voulais que les gens puissent se projeter, Ronnie aussi. Vous voulez que j'en puisse se projeter facilement, en tout cas dans leur enfance.
Alors, de la même manière, le graphisme, justement, de René Hautin, moi, j'ai trouvé qu'il se jouait des codes de Miyazaki, quoi. Est-ce que c'est en consultation qu'il a créé cet univers avec vous, ou est-ce que c'est vraiment sa touche à lui, sa participation à la mécanique de la Madeleine ?
Alors, en vrai, moi, j'ai donné beaucoup de références un petit peu photographiques à René. Mm-hmm. Après, voilà, j'avais vraiment envie de le faire avec Ronnie parce que voilà, je savais qu'il a un dessin hyper vivant, en fait. Pour moi, c'était l'idéal parce que je voulais pas faire un récit sur l'enfance, trop, comme je le disais, trop larmoyant, trop moralisateur ou voilà, trop cucu aussi. Mm. Et je savais que Ronnie apporterait vraiment un côté rond dans les personnages, vraiment un côté très vivant, vraiment avec son style qui était déjà là, en fait. Et à aucun moment, on s'est dit, il faut que ça ressemble à Miyazaki, en fait.
Non, bien sûr, oui, j'imagine bien.
Mais voilà, naturellement, en fait, Ronnie a pas mal travaillé les designs, et c'est vrai qu'on est arrivé au design qu'on connaît dans l'album, en fait, de façon assez naturelle.
C'est très réussi, en tout cas. Ouais.
C'est vrai que Ronnie apporte beaucoup, effectivement, beaucoup voilà, avec ses couleurs et tout.
De lumière, oui.
Beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière au récit. Et c'est parfait. C'est vrai que j'ai dû attendre pas mal que Ronnie soit disponible, parce qu'il travaille surtout dans le dessin animé, dans le cinéma d'animation, notamment. Mm. Il est très sollicité, puisque très talentueux. Et voilà, il a fallu que j'attende qu'il soit disponible, mais voilà, je regarde pas. Pour moi, c'était le bon choix.
Alors, Momo est une petite fille qui a affaire face à des peines très lourdes pour une petite fille. On le sait, c'est une dimension qu'on ne choisit pas dans nos vies. Certains enfants, plus que d'autres, ont apporté cette quantité de peine, même à 5 ans. Alors, quand on souhaite transmettre ce genre de message, mais vous l'avez dit, il n'y a aucune portée moralisatrice dans vos deux albums, c'est très réussi à cet égard. Mais quand on s'adresse à des jeunes lecteurs, à quoi fait-on attention particulièrement, Jonathan ?
En fait, j'ai pas vraiment fait attention. Enfin, j'ai écrit vraiment l'histoire que j'avais en tête. J'ai évité de me dire justement, ça va être un récit pour enfants, il faut que je fasse attention à tel ou tel code. Sachant que souvent, enfants, on est plutôt à essayer de lire ou de regarder ce qui nous est pas destiné, en fait.
Mmh, mmh, complètement.
On est souvent à piocher dans la bibliothèque des parents ou du grand frère. Et on côtoie d'ailleurs pas mal aussi d'adultes, en fait, et d'adolescents. Enfin, quand on arrive en sixième, souvent on regarde les troisièmes comme si c'était déjà des adultes. Il y a toujours une projection, je trouve, qui se fait. Et ce que j'essaie de mettre dans Momo, justement, avec Momo qui est assez fasciné par une adolescente, Françoise.
Oui, Françoise, ouais. Qui fume.
Et du coup, dans l'écriture, j'essaie de faire quelque chose d'assez naturel, en fait. Je pense que c'est pour ça que le récit parle aussi aux adultes. Mmh. Pour moi, l'idée, c'était pas de faire un livre jeunesse, c'était de faire un livre tout public, comme on en trouvait beaucoup à une époque, en fait. C'était un peu la force de la bande dessinée, je trouve, c'est que c'était vraiment des albums pour beaucoup de classiques qui pouvaient passer vraiment entre les mains des adultes, des enfants, enfin de toute la famille.
Complètement.
Et on le perd un petit peu, justement, à force de...
sectoriser.
De couper un petit peu, c'est-à-dire faut que ce soit jeunesse ou de tel un tel âge, que ce soit les éditeurs et les libraires, en fait. Et je trouve que ça empêche un petit peu l'émergence de titres jeunesse.
C'est vrai.
Enfin voilà, de genre, il y en a, ça se fait quand même, il y a quand même des éditeurs qui proposent des auteurs de très belles choses dans ce sens-là, mais voilà, c'était l'envie en tout cas. Je savais que je voulais parler aux enfants, mais je n'ai pas cherché non plus à me dire, bon, voilà, c'est des enfants, il faut que je les préserve, il faut que je fasse attention. Évidemment, j'avais en tête de prier à mettre de gore, de choquant, parce que voilà, de toute façon c'était pas l'idée,
ça aurait
pas été pertinent, mais...
Au cœur de votre narration, il y a cette question du qu'en dira-t-on, en fait, parce que on est dans un microcosme, parce que dans le village tout le monde connaît tout le monde, parce que Momo vit différemment, le qu'en dira-t-on et le mal qu'il fait si on ne fait pas attention. Est-ce que c'était inscrit dans une volonté de départ dans votre projet, ça?
Bah, c'est vrai que c'était une de mes envies, c'était de parler un petit peu des laissés pour compte, en fait. Donc, à différents niveaux, mais c'est vrai que ça m'intéressait justement de parler d'une enfant bon, déjà qui vit sans sa mère. Mm. Donc on devine dans le récit qu'elle est partie, tout simplement, qu'elle a quitté son père. Et en plus, voilà, d'avoir un père qui travaille loin et pendant longtemps, ça. C'était l'envie quand même d'avoir une enfance, de traiter d'une enfance un petit peu. Ouais, un peu décalé en fait.
Tout à fait. Avec ces personnages adultes qui sont magnifiques aussi, parce qu'il n'y a pas que ceux qui nourrissent le candidat raton, il y a aussi ceux qui permettent à Momo de grandir en fait.
Ouais, c'est ça, qu'il y a, effectivement, ayant vécu dans un petit village, je sais que forcément il y a partout, mais il y a toujours un petit peu les ragots, les choses comme ça, les choses se savent vite en fait, quoi. Donc c'est un petit peu traité de ça, sans faire trop lourdement, mais voilà, que ce soit un petit peu là aussi.
Eh ben, c'est très réussi.
Donc, c'était le défi en fait. Pour moi, c'est vraiment un travail d'équilibriste, d'alchimiste un petit peu en fait, l'écriture, où vraiment il faut savoir doser les choses pour qu'elles paraissent naturelles. Enfin, moi, mon plus grand défi, c'est de me faire oublier en tant que scénariste en fait. C'est qu'on ne sente pas forcément une patte dans les dialogues ou autre, mais que ce soit voilà, que les persos vivent et puis que les lecteurs puissent s'en emparer sans se dire voilà, ah, on connaît bien l'écriture du scénariste ou. Voilà, j'essaie de faire en sorte que le récit soit le plus naturel possible en fait, pour que ce soit plus immersif en fait.
Jonathan Garnier, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Vous ne coupez pas à la question Rock'n'Page. Quel titre de musique avez-vous choisi pour évoquer votre travail sur Momo?
Du coup, c'est un titre d'un groupe islandais. Mm-hmm. Même en fait, je suis un peu obsédé en fait par l'Islande et notamment la musique islandaise. Il y a beaucoup de groupes, dont le plus connu, il y a Björk évidemment ou Sigur Rós pour le plus connu.
Oui.
Et notamment ce groupe-là, j'aime beaucoup, c'est que il y a souvent un côté un petit peu, un petit peu enfantin, naïf dans ce qu'ils peuvent faire, que voilà des petites voix, des instruments, des petits xylophones ou même certains objets voilà du quotidien utilisés pour faire leur musique. J'aime bien ce mélange un petit peu de naïveté, de choses très très simples, mais en même temps voilà au service de compositions mine de rien assez travaillées. Que ça, voilà, ça présentait bien Momo qui paraît un petit peu naïve, un petit peu rentre-dedans, mais voilà, qui est une enfant vraiment en recherche de repères, voilà, qui se pose pas mal de questions et un peu plus. Peut-être un personnage peut-être plus complexe qu'on pourrait le croire.
Oui, tout à fait. Merci infiniment.
Et merci à vous.
C'était le groupe MAM, choisi aujourd'hui dans Rock and Page par Jonathan Garnier, le scénariste de cette bande dessinée en deux tomes qu'il a réalisé avec Ronnie Autain aux illustrations. BD qui s'intitule Momo, qui est paru chez Casterman et qui vient de remporter la pépite d'or côté bande dessinée au salon du livre jeunesse de Montreuil. Momo, c'est une petite merveille qui parlera à toutes et à tous, petits et grands, de l'enfance, ce territoire incroyable. Je vous rappelle qu'on suit sur les deux tomes les aventures de cette petite fille de 5 ans qui vit avec sa grand-mère car son père travaille sur les bateaux et sa mère n'est pas là du tout. Et son absence n'est même pas expliquée dans les deux tomes de la bande dessinée. Les graphismes rappellent les animés de Miyazaki. Le scénario met en valeur comme un bijou dans un écrin la personnalité de cette petite fille aux prises avec son enfance et tout ce qui fait son quotidien dans ce qui semble être un village de Normandie ou de Bretagne. On la voit dans son lien avec sa grand-mère, on la voit sauvage apprenant à se rapprocher des enfants de son âge. On la voit fascinée par une jeune femme plus grande qui va la prendre sous son aile. On la voit sous les yeux des adultes qui malheureusement se croient toujours dans la nécessité d'avoir leur mot à dire. Voici une bande dessinée que vous pouvez offrir à toutes celles et ceux qui vous sont chers, dès lors qu'ils sont âgés, disons, d'une dizaine d'années, et que vous pourrez lire en vous régalant tout autant, sûrement pour d'autres raisons. Une BD qui parle de l'enfance et qui fonctionne comme une Madeleine de Proust, qui par des détails, une atmosphère, un graphisme, nous fait ressentir les nôtres d'enfance. Vraiment un chouette moment de lecture lumineux, avec une rupture forte à la fin du premier tome qui fait que l'on se précipite sur le tome 2. Une lecture où la dose d'émotion est suffisamment forte pour amener vos pré dans la lecture. Voilà, je vous rappelle les références de cette bande dessinée, c'est Momo, tome 1 et 2, paru chez Casterman. Le scénariste, c'est Jonathan Garnier, qui nous a fait l'immense honneur de répondre à toutes nos questions aujourd'hui dans l'émission. Et puis côté illustration, c'est Ronnie Autain. Cette émission touche à sa fin. Merci à Bruno de Divergence FM à la réalisation. Retrouvez tous les numéros de l'émission sur le blog qui lui est consacré. Vous n'avez qu'à taper Rock'n'Page dans un moteur de recherche qui se respecte et le tour est joué. Je vous laisse en compagnie de Bolo Lipsum qui est de Montpellier et que j'ai choisi car l'univers musical très chouette qu'il invente est réalisé à partir de tous nos jouets des années 80. Prenez bien soin de vous.